Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Manière, président de Veille-Solis Communication, qui a publié Le Pangolin et l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Sylvain Aurébil, président d'Orientis, l'été Kousmi. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. J'ai plein de réactions. Il y a Sam qui m'écrit « Si ce budget avait été présenté par un gouvernement de gauche, on aurait crié à la gabegie et à l'incompétence. » C'est sans doute vrai, ça. Giorgio, une forte hausse des taux, c'est le meilleur moyen de contraindre notre état dépensier à tailler dans les dépenses inutiles. Ah oui, ça, le jour où on a le couteau sous la gorge, l'incident
J'aimerais
du crédit.
J'aimerais que ce fût vrai.
Ben, attendez que le 10 ans français soit à 5,5, vous allez voir. Là, on va devoir. Ben, vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là?
C'est la logique économique, mais c'est pas la logique politique, quoi.
Si on flippe un peu, on met 2 points de CSG, 2 points de TVA et c'est réglé en 24 heures. Pas compliqué, hein. Ben, alors après, bon. On croit que rien ne va nous arriver, écrit Robert.
Nicolas Truss.
Ne va nous arriver.
On mettra 4 points de chômage aussi, hein.
Mais entre l'incident de crédit et le chômage.
Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop souhaiter l'incident de crédit.
Mais personne ne le souhaite, il n'y a rien de pire.
Simplement, on peut le pronostiquer.
Il y a des gens qui le souhaitent, en tout cas.
Robert m'écrit, on croit que rien ne va nous arriver avec un déficit structurel permanent, un déficit commercial chronique, une incapacité à équilibrer nos comptes courants. On y croit vraiment, écrit-il. Et puis il me met aussi.
Ça me paraît très juste, ça, quoi.
Un ami de Philippe, oui, je pense.
On prête à la France, il continue, parce qu'elle a une administration fiscale efficace, c'est vrai. On a la réputation d'être l'un des pays au monde qui lève le mieux l'impôt.
Oui.
Et on a l'euro, bien sûr.
On est très bon aussi pour gérer la dette. Si vous voulez, c'est normal, on a les spécialités. On a inventé la TVA. Donc, si vous voulez.
Mais
c'est glorieux.
Oui, les malades sont les mieux soignés.
La France a inventé la TVA, c'est son plus beau produit d'exportation. Elle recouvre l'impôt comme personne et elle gère merveilleusement la dette. C'est des points de satisfaction très considérables. Enfin, ça dit aussi un tout petit peu quelque chose de ce pays. Si vous voulez, on se spécialise dans la capacité à éviter. La faillite alors qu'on fait des bêtises par ailleurs.
Et on fait du très bon vin pour oublier tout ça.
Mais il y a des idées qui pourraient sembler très françaises comme la taxation des super profits qui commencent à arriver dans la bouche de gens comme Philippe Lane, le chef économiste de la BCE. Ça, c'est assez inattendu. On était resté sur quoi là avant de faire la pause là, tout le monde.
On en était à est-ce que c'est bien raisonnable d'espérer arrêter la crise en dépensant plus. Pour faire simple.
L'apaiser.
L'amortir.
Pour mieux rebondir.
Et on avait fini, je vous rappelle, sur il n'y a pas de magie, there is no free lunch. Bon. Et je pense que fondamentalement, c'est ça la question. Et moi, je me mets à la place des politiques. Je comprends qu'ils se disent on va dépenser plus, et puis comme ça, ça fera moins mal, et puis comme ça, on sera réélu. C'est super logique comme appréhension de leur point de vue. Mais ce n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que quand il vous tombe une météorite sur la tête, vous pouvez essayer de courir sur le côté, mais vous ne pouvez pas éviter tous les ennuis.
Je ne suis pas d'accord,
c'est
en fait.
Pas gérable. Attends, je finis juste. Oui. On peut faire ce qu'il faut pour qu'il y ait le moins de gens possible qui souffrent et peut-être même choisir que souffrent moins ceux qui sont les plus fragiles. Tout ça est complètement légitime. Mais on ne peut pas, par décret, empêcher que quand il y a une météorite qui vous tombe dessus, ça fasse mal. C'est ça la folie française, c'est de penser que le roi guérit les écrouelles. On ne peut pas, en dépensant toujours plus, éviter au moins une partie, voire une partie assez substantielle, des ennuis qui viennent d'un fait générateur exogène. Et encore une fois, ceux qui essayent de le faire, ça finit mal. On ne peut pas être dans le déni constamment. Donc on est un peu, à mon avis, dans cette heure de vérité. J'espère que ça se passera bien, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire il faut que ça fasse mal, etc. Je dis simplement qu'on ne peut pas continuer à croire jusqu'à la fin des temps, contrairement à ce que disait Sylvain. Ce n'est pas parce qu'on dit un truc depuis 20 ans qu'il est toujours faux, parce qu'on a jamais prouvé qu'il était vrai. Si je vous annonce par exemple que ce soir il fera nuit et que je le dis toutes les minutes, pendant très longtemps j'aurai l'air d'un clown et puis un jour il fera nuit. Et ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On ne sait pas quand, mais il y a un moment, le soleil va se coucher. Donc je pense qu'il n'est pas raisonnable de dire que parce qu'on prie, parce qu'on dépense, le soleil ne se couchera pas. On peut tout organiser pour que ça se passe bien, on peut limiter, etc. Mais ce n'est pas vrai que c'est fatal. On ne peut pas l'éviter en dépensant plus et en faisant ce que font pas les autres parce que c'est nous et qu'on est géniaux. Ça, ça n'existe
beaucoup
pas.
Beaucoup font quand même beaucoup en ce moment. On fait un peu plus, hein, mais
oui, puis il faut voir d'où ils partent aussi, hein, quand même.
Je sais pas si vous voulez répondre, Sylvain, à ce que vient de dire Philippe Manière. Après, moi, j'aimerais demander à Xavier Tambour ce qu'il pense de la thèse de Gilles Berset, quand même. Parce que non, vous n'étiez pas d'accord, mais
Je pense que la comparaison avec le soleil qui se couche et la France qui fait faillite est pas recevable.
Non. Mais bon, et puis ce plaidoyer pour les horloges arrêtées, ça peut pas fonctionner, quoi.
Oui, une horloge à l'arrêt a raison une fois tous les deux fois par jour,
deux fois par jour. Deux fois par jour, elle a raison.
Mais il se couche assez régulièrement.
Au demeurant, je dirais juste que ce gouvernement ne travaille pas pour être réélu, puisque Emmanuel Macron ne peut pas l'être. Donc on ne peut pas lui dire tu es en train de faire n'importe quoi pour essayer d'être réélu. Ce n'est pas son cas, et donc ce n'est pas le cas de ce gouvernement.
Lui, non.
Oui, lui et les autres. Enfin, je ne pense pas qu'Elisabeth Borne cherche à être réélue.
Bruno Le Maire a peut-être des intentions. Donc,
résumé. Les politiques ont envie que ça se passe bien pour eux. C'est ça que je veux dire. Peu importe qu'ils soient rééligibles, s'en seront d'autres,
Oui, mais enfin, ça change quand même beaucoup de choses.
Pas tellement, non.
Le fait d'essayer d'être réélu.
Si Chirac et Mitterrand avaient été particulièrement courageux à leur deuxième mandat parce qu'ils n'allaient pas se représenter, on s'en serait aperçu. Donc, c'est pas corrélé directement à la rééligibilité du président.
Alors, une question de fond, et elle a été soulevée tout à l'heure. Est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter, Xavier? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser pour attendre encore 5 minutes, monsieur le bourreau ?
Alors, c'est ça le sujet. Ouais. C'est ça le sujet. Et la réponse, c'est de dire, évidemment, il n'y a pas de free lunch. Et donc, ce que vous faites aujourd'hui aura des conséquences demain qu'il faudra aussi envisager et assumer. Mais on peut choisir comment on payera son lunch, puisqu'il n'est pas gratuit. On peut choisir soit d'avoir de l'inflation de façon persistante. Ce que dit Gilles Berset, c'est que l'inflation qu'on évite aujourd'hui,
On l'aura plus tard.
Mais on peut ne pas être d'accord avec
et
ça.
Et en pire, d'ailleurs.
On peut ne pas être d'accord. Et on peut dire, en fait, non, c'est que l'inflation qu'on n'a pas aujourd'hui, ça sera ça d'inflation de moins demain, parce que le problème, c'est la fameuse
boucle
prix salaire. L'inflation, c'est pas le fait que les prix d'énergie augmentent, même s'ils augmentent de façon durable. C'est pas ça, l'inflation. Ça fait pas d'inflation. Ça fait une hausse des prix. Mais c'est pas ça, l'inflation. L'inflation, c'est un processus continu d'augmentation des prix.
D'auto-alimentation.
Et précisément, si on n'enclenche pas ce processus, on ne l'aura probablement pas demain. Et en revanche, qu'est-ce qu'on va avoir? Puisqu'on aura évité ça, hein, et qu'il n'y a pas de repas gratuit, ce qu'on aura, c'est plus de dette publique. Et c'est là qu'il faudra payer cette dette publique. Donc il n'y a pas de repas gratuit. Personne ne dit que tout va se passer sans douleur et sans aucune conséquence. Et c'est de la magie. C'est pas de la magie. C'est je transforme la possible inflation d'aujourd'hui en futur dette publique.
Oui, mais on peut.
Et demain, il faudra
deux.
Que je gère cette dette publique.
On peut surtout avec les deux. C'est ça la question.
On peut finir avec les deux.
Si l'énergie redescend pas et qu'au bout d'un moment on peut pas faire autrement qu'avoir des augmentations salariales qui viennent avec l'inflation, des prix persistantes et que la boucle s'installe, on aura la dette et la boucle. Donc c'est ça le risque.
Pour qu'il y ait une inflation l'année prochaine à cause des prix de l'énergie, il faut pas que les prix de l'énergie restent élevés.
Absolument.
Il faut qu'ils continuent d'augmenter.
Absolument. Non, il suffit qu'on arrête le bouclier tarifaire.
Ah oui, on arrête le bouclier tarifaire.
C'est quand même au programme.
Et non, parce qu'on peut cibler progressivement.
Oui, mais il y a déjà 15% de hausse en janvier.
Oui, 15% de hausse.
Mais où sont les prix du pétrole, Philippe, aujourd'hui?
$83 le baril.
Voilà, donc ils ont déjà baissé par rapport aux 30 centimes à la pompe. Et donc en janvier, on va arrêter le bouclier tarifaire sur les 30 centimes à la pompe. Enfin, vous êtes passé devant une
station service. Non, sur la pompe, oui, sur le gaz.
Vous êtes passé. Non, mais d'accord, mais
sur
vous êtes
le gaz, on n'aura pas une rebaisse des prix.
Alors qu'est-ce qu'on va faire sur le gaz en 2023, en 2024?
On va limiter la hausse à 15%.
Bon, on va limiter la hausse, mais qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va enclencher un mouvement d'économie d'énergie, de production d'énergie alternative. Enfin voilà, c'est ça la stratégie. Alors on peut dire c'est risqué, ça peut ne pas marcher, vous n'arriverez pas à produire les substitutions que vous voulez ou les économies que vous voulez dans les temps qui sont nécessaires. Mais en fait, on peut pas renoncer a priori sur ce plan-là et dire ben non, on aura de l'inflation de toute façon et donc il faut ne rien faire aujourd'hui et laisser tout ça exploser. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Gilles Berset et je pense que
dans l'autre sens. Pardon, juste un point. Alain Minc disait même pour aller dans le sens de Xavier, hein, parce que c'est deux thèses qui sont
vous me flattez.
Moi, je trouve. Hein, voilà. Non, mais oui, c'est ça. Je vous le laisse. Alain Minc. Disait dans Les Échos, je crois, vendredi dernier, quelque chose qui est assez intéressant. Il disait, grâce au bouclier, les entreprises françaises vont être moins obligées, c'est ce que vous disiez Xavier, d'augmenter les salaires pour rattraper les prix que vont être obligées de le faire leurs partenaires des autres pays qui, elles, vont être confrontées à des revendications salariales élevées parce que l'inflation dans certains pays, c'est 8, 10, 12, 15 et donc forcément les...
25% dans les pays
baltes. Si on se trouve pendant un an, 18 mois dans cette situation-là, on récupère en fait 8% de compétitivité prix. Donc, lui, il dit que c'est une dévaluation déguisée. Ça mérite d'être creusé, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens que vous disiez, Xavier, il y a même des arguments pour dire on est en train de faire un truc génial. Moi, je pense que la thèse de la France est la seule à faire ça et elle est géniale. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ça s'est parfois avéré, pas toujours.
Elle est loin d'être la seule. Hein. Les États-Unis ont un plan anti-inflation.
Dans ce volume-là, dans ce quantum-là.
L'Italie a un plan qui ressemble beaucoup. L'Espagne a un plan qui ressemble énormément. L'Allemagne vient de mettre en place la même chose.
L'Espagne, elle paye pas l'énergie le même prix. Les États-Unis, ils ont la monnaie mondiale. D'autres pays comme l'Allemagne qui font des boucliers.
L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne
d'un niveau de dette différent.
Sont en train de faire la même chose. Donc,
Sylvain,
c'est pas une idée si sotte et égrenue que ça.
Non, mais j'ai même donné un argument de l'autre sens. Il y a une question.
Au-delà de la baisse des impôts de production, certes étalée sur 2 ans, j'entends que des chefs d'entreprise s'inquiéter sur leur facture d'énergie et le fait qu'ils ont le sentiment d'être à côté du bouclier tarifaire, calibré pour les ménages. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a un énorme trou dans la raquette ?
Il y a un énorme trou dans la raquette, oui, parce que aujourd'hui, moi je vois très bien, on est en train de renégocier nos contrats d'énergie. Il y a des augmentations de 100%. C'est considérable, considérable. Et en fait, alors Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours, surtout ne signez pas. Moi, j'interroge Bercy. Que faut-il faire ou qu'est-ce qu'on attend? On signe pas aujourd'hui, si on peut. Mais qu'allez-vous faire pour nous faciliter ces signatures? Est-ce que vous allez dire à EDF, à Total Energy, baissez les prix pour les entreprises, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez nous rembourser quelque chose? C'est compliqué, mais c'est un sujet... on ne peut pas demander que l'État nous aide constamment. Encore une fois, on n'est pas là pour demander des subventions et des aides, mais c'est vrai que on a des sujets de la volatilité qui s'ajoutent à la volatilité. On a des problèmes énergétiques importants aujourd'hui, ça coûte très cher aux entreprises, et nous, on n'est pas encore très consommateurs d'énergie, mais pour les boîtes qui le sont, c'est énorme.
Les électro-intensifs ont un dispositif particulier quand même, plus dire qu'il n'y a rien.
Peut-être, mais en tout cas, les boîtes de base comme nous, on n'en a pas. Et ça vient s'ajouter à quoi? Ça vient s'ajouter, alors j'en ai parlé souvent, beaucoup d'entreprises ont des prêts garantis par l'État qui doivent rembourser aujourd'hui au pas de course, en 4 ans. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup quand vient s'ajouter une crise, une probable récession, un coût de l'énergie qui augmente. Et ça fait quoi tout ça? C'est pas que les boîtes vont faire faillite, c'est qu'elles ne vont plus investir. En fait, c'est ça le problème. Parce que Olivia Grégoire disait non, mais les boîtes vont s'en sortir. Mais oui, les boîtes vont s'en sortir. Sauf que cet argent qui est remboursé à l'État au pas de charge, quatre ans pour des prêts qu'on n'a pas demandé, enfin.
Fallait pas les prendre.
Mais non, mais on en avait besoin parce qu'on nous avait fermé de façon autoritaire, donc on a pris ces prêts. Mais enfin, aujourd'hui, on nous demande de les rembourser en 4 ans, ça n'a pas de sens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les rembourse. On a commencé au mois d'avril, on les rembourse. L'énergie augmente, qu'est-ce qu'on fait? On la paye. Mais cet argent, il n'y a pas d'argent magique. Cet argent ne va pas dans les investissements, c'est tout. Il va au remboursement de la dette, il va au paiement d'une énergie chère, il ne va pas dans l'investissement. Et ça, on va le payer dans les années qui viennent. Quand les entreprises n'auront pas investi à cause de ces problèmes qu'on identifie aujourd'hui, eh bien, on viendra pleurer. Et là, le chômage repartira à la hausse. Donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, faire quelque chose pour que les entreprises puissent continuer d'investir.
Alors, je vous pose la question différemment, mais compte tenu de l'ultra-violence du choc. Je parle pas du signal prix, petit signal prix qu'il faudrait laisser, mais là, c'est pas un signal prix quand on fait x 100%, enfin, x 2. Compte tenu de l'ultra-violence du choc, est-ce qu'il faudrait rajouter des éléments? Je sais que Bruno Le Maire doit rencontrer les énergéticiens pour voir si, comme il a fait avec les banquiers et les assureurs, et là, bientôt, les sociétés d'autoroutes.
Les énergéticiens, enfin, comme vous savez, le plus gros d'entre eux, qui est nationalisé ou en voie de l'être, n'a pas des comptes si florissants que ça.
Mais lui, il a payé des cadeaux. Il a payé de 7 à 8 millions d'euros.
Oui, mais on est capable de lui demander plus encore. Donc, il a payé très cher. Moi, je crois pas
qu'on soit dans une situation personne veut le diriger.
Facile. Je vois pas très bien comment on peut aider les entreprises. Alors, moi, je veux quand même dire un mot sur les PGE. C'était facultatif. La plupart des gens qui en ont pris n'en avaient pas besoin et ils ont bien fait de le prendre parce que c'est de l'argent gratuit, ça donnait un coussin. Tout le monde l'a observé, je crois d'ailleurs que le FCE avait écrit quelque chose là-dessus. Il y a eu une augmentation très considérable de la trésorerie des entreprises, rappelé le PGE, qui a été durable, pérenne. Beaucoup de gens ont décidé, puisqu'ils en avaient l'option, de différer le remboursement. Mais ça correspondait pas à un besoin pour la plupart des entreprises. C'était une sorte de matelas de sécurité.
Les entreprises qui étaient fermées, les hôtels, les restaurants, les boutiques, on était fermés, on n'avait plus de chiffre d'affaires.
D'accord, ça s'est rattrapé largement après, on vous a payé votre personnel.
Mais jamais de la vie.
Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire, pendant la première demi-heure, qu'on a fait un énorme travail de protection des entreprises et dans la demi-heure suivante qu'on ne l'a pas fait.
Mais on a fait un énorme travail de protection des entreprises parce qu'on les a fermées.
Moi, je dis que les entreprises ne peuvent pas rembourser leur PGE.
Et les entreprises aujourd'hui peuvent rembourser leur PGE, mais c'est au détriment de l'investissement.
Ça, évidemment, moi aussi, je peux vous dire, si j'avais plus d'argent, je dépenserais plus. C'est la portée de tout le monde.
Le soleil va se coucher,
c'est l'argent de l'État.
C'est l'argent de l'État. Vous aurez raison une fois de plus, comme d'habitude.
Non, je disais simplement tout à l'heure.
Mais si, vous aurez raison, puisque le soleil va se coucher.
C'est pas parce que pendant longtemps.
Je vais rembourser mes PGE, puisque le soleil va se coucher.
Vous pouvez rembourser
même demain.
Ceux qui ne peuvent pas rembourser les PGE, souvent, c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies.
On n'a pas dit qu'elles ne pouvaient pas rembourser. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, encore une fois. J'ai pas dit qu'elles ne pouvaient pas rembourser. J'ai dit qu'elles remboursaient, mais que c'était au détriment de l'investissement.
C'est ce que vous disiez. Je dis, moi, que celles qui ont du mal à rembourser sont des entreprises qui, généralement, ont gagné 3 ans grâce au PGE. Quant aux autres, si on investissait l'argent du PGE qui était sur 1 ou 2 ou 4 ans, ça se saurait. C'est pas très raisonnable d'investir l'argent du PGE. C'est pas de l'argent fait pour investir le PGE.
Je ne parle pas des PGE qui servent à investir. Je parle des remboursements de ces PGE qui empêchent l'investissement. C'est quand même clair.
Ben non.
Bon.
Bruno Le Maire a réagi un peu courroucé, agacé. C'est fort de café, a-t-il dit. Et j'aimerais savoir comment vous vivez la scène. Je considère que sur ce coup-là, il a plutôt raison. Parce que le MEDEF dit, ils veulent tout, le MEDEF. Ils veulent qu'on baisse les impôts de production, plutôt en une fois pour la CVAE, mais qu'on fasse moins de déficit et qu'on réforme l'État. Mais si on pouvait éviter de réformer les retraites, il y a un moment, Bruno Le Maire dit, il y a des choses qui sont un peu incohérentes dans le communiqué.
Et qu'on ne fasse pas de taxes sur les super-profits.
Bien sûr, alors bon, on verra ce qui se passera. Ce ne sera pas de la fiscalité sur les super-profits. C'est ce qui va être mis au niveau européen par rapport à un prix plafond de l'électricité où ceux qui ne produisent pas au gaz mais avec d'autres sources, eh bien effectivement, contribueront au profit de la redistribution entre les États. Et donc, Bruno Le Maire dit, si vous voulez qu'on fasse moins de déficit, dans ces cas-là, j'arrête les baisses d'impôts de production. Je me mets à sa place, oui. Vous voulez qu'on réforme l'État et pourtant, vous ne me suivez pas sur la réforme des retraites. Et donc, il était un peu... Et d'ailleurs, la FEP, c'est plutôt désolidarisé du MEDEF, considérant
carrément,
que... les contraintes 2023 sont réelles. Là où je tire mon chapeau à Bercy, c'est que vous devez sortir une feuille de route budgétaire avec des chiffres précis, uniques, pas des fourchettes. Allez sortir une fourchette de croissance, une cible de croissance, une cible d'inflation, une cible de taux à 10 ans, avec le contexte que l'on vit, c'est quand même chaud. Xavier Tabeau, cette passe d'armes là, elle vous fait sourire ou vous considérez que le MEDEF est un peu mou ou pas très franc du collier? Parce que la CPME aussi était plutôt du côté AFEP Bruno Le Maire.
Non, je pense que la réponse de Bruno Le Maire au MEDEF est assez juste et assez bien portée.
Oui.
Voilà. C'est un argument très simple et très clair. Une bonne punchline, on dirait, aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, on peut pas, sur ça, évacuer tout ce que dit le MEDEF.
Mais bien sûr, c'est juste la fin du jour,
on peut pas résumer la politique budgétaire. Si vous êtes pas content, je vous supprime la ligne qui vous concerne, quoi. Parce que, on est dans une forme de clientélisme inversé qui serait un peu déplaisant, en tout cas, dans un régime démocratique. On va pas dire laissez faire pour les autres parce que toi t'as une petite réduction d'impôt, on va t'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation et donc tais-toi parce que si jamais tu protestes, je vais arrêter ça. La punchline est bonne, je pense que le point est compris. Après c'est pas un débat démocratique, on va dire.
Non, mais c'est comme le col roulé de Le Maire, c'est le truc du jour et on passe à autre chose. À moins que vous vouliez parler de la cravate du ministre. Philippe Manière.
C'est gentil de m'appeler Bruno Le Maire. Pas complètement, en fait. Oui, c'est anecdotique. Oui, chacun est dans son rôle. Oui, il y a la punchline. Voilà, c'est ça. Si j'avais un col roulé, sérieusement, chacun est dans son rôle. C'est de la punchline. C'est très bien. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que derrière, ça mérite quand même de creuser un peu parce que cet argument de dites-moi, il faut que je coupe, moi, ça fait 35 ans. Je me rappelle,
Bruno Le Maire reproche au MEDEF de ne pas participer à la réflexion des baisses,
il y a 35 ans, je me rappelle déjà avoir écrit quelque chose sur le sujet le directeur de cabinet.
C'est votre côté horloge arrêté, ça.
Qui me disait, mais parce que c'est éternel, c'est un très mauvais argument qu'on vous sort tout le temps. Oui, j'ai lu votre article avec intérêt. Est-ce que je commence par dérembourser les béquilles ou plutôt les ambulances? Est-ce que vous voulez qu'on arrête de faire des HLM? Dites-moi par où il faut commencer. Ça, c'est une grande classique. La vérité, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont pas des pays où les gens marchent nu-pieds dans la rue et où ils mangent à leur faim. Enfin, c'est des pays où ils mangent à leur faim. Et c'est des pays où il y a beaucoup moins de dépenses publiques que chez nous. Donc, ce sont des options qu'on peut examiner calmement derrière les punchlines. Typiquement, créer 10 500 postes de fonctionnaires. Est-ce que c'est bien nécessaire?
Et ils vous disent que c'est des gendarmes, des policiers.
C'est ça, bien sûr, évidemment. Ben, très bien, moi je suis pour plus de gendarmes, etc. Mais supprimer les 10-257 agences qui servent à rien et qui ont un coût de coordination absolument énorme. Parler avec n'importe quel industriel, Sylvain faisait allusion tout à l'heure à la difficulté d'être chef d'entreprise. Moi, j'ai parlé l'autre jour avec un de mes clients qui me disait une partie importante de son boulot, c'est de faire se parler des deux administrations. Il a besoin de l'autorisation des deux, il faut qu'elles se parlent.
C'est l'enfer.
Il n'y a pas de rendez-vous avant 6 mois. Donc, vous voyez, la solution à ça, c'est simple, c'est moins d'administration. Et il se trouve que ça serait moins de coûts. Donc, moi, je comprends que Bruno Le Maire réponde ça au MEDEF. Bien sûr, il est dans son rôle. Et bien sûr que les entreprises qui, à la fois, sont contentes d'avoir le crédit d'impôt ceci, crédit d'impôt cela, sont peu recevables à se plaindre qu'on ne soit pas plus responsable sur les finances publiques. Mais quand vous regardez attentivement ce que raconte Geoffroy Roux de Bézieux, quand vous regardez le discours du MEDEF, qui n'est pas irréprochable, hein, il y a quand même toujours l'idée qu'il faut plus d'efficacité, moins de bureaucratie. Mais pardonnez-moi, c'est comme ça qu'on va arriver à boucler. C'est-à-dire qu'on peut faire des dépenses opportunes. Sans partir dans le mur, à condition de bien choisir les dépenses.
Il y a un truc qui est vrai.
Et il y a un truc qui est vraiment incontestable, c'est que l'État en France est beaucoup trop important, ne serait-ce que par comparaison avec ceux de nos voisins qui marchent le mieux. On parle ici de la Suisse à peu près tous les matins. Prenons un exemple au hasard, la Suisse.
Oui, alors il y a un truc qui est vrai, c'est que lorsque vous consultez l'ensemble de ceux qui réfléchissent à ces sujets de niveau de dépenses, d'efficacité de dépenses, qu'ils soient aux affaires, qu'ils soient élus, qu'ils soient experts, qu'ils soient économistes, ceux qui osent se mouiller sur la petite liste à la Prévert des choses qu'il faudrait faire, ils sont pas très nombreux. Agnès Verdier le fait.
Oui, moi je suis
même on n'aime pas, mais Agnès Verdier.
Moi je suis à votre disposition, hein, parce que.
Oui, oui. François Eckhall l'a fait de manière limpide il y a un an.
Bien sûr.
Et là on avait la liste, milliard par milliard, poste par poste, pour aller chercher tailler 10 milliards par an.
Et là-dessus, ni Bruno Le Maire, ni Geoffroy Roux de Bézieux auraient eu des arguments très sérieux à leur opposer. Geoffroy Roux de Bézieux aurait été pour, et Bruno Le Maire, à mon avis, en privé, aurait dit la même chose. Le problème, c'est qu'il faut le courage d'aller tailler. Vous avez des gens qui sont là-dedans, vous avez des gens à qui on a raconté qu'ils avaient des jobs pour la vie. C'est des jobs qui servent à rien et qui même détruisent la capacité de créer la richesse du pays. Mais voilà, les couper, c'est politiquement compliqué. Mais c'est là qu'est la solution, diminuer l'État administrant.
Oui, mais diminuer l'État administratif, ça veut dire se séparer d'un certain nombre de gens, ça veut dire obtenir l'accord des syndicats, parce que si vous faites ça sans l'accord des syndicats, tout le monde sera dans la rue. Et aujourd'hui, en France, je suis désolé, c'est pas le gouvernement qui est bloquant, ce sont les syndicats. Parce que si on avait des syndicats intelligents à l'allemande, eh bien on n'aurait pas cette administration qu'on a aujourd'hui. C'est bien de dire il faut couper ceci et cela, ben coupons-le, mais on ne peut pas le couper parce que les syndicats sont vent debout, parce que ces salariés et les autres d'ailleurs seront dans la rue, qu'il y aura une surenchère et que. Mais bien sûr, mais c'est malheureusement ça. J'ai bien vu comment ça se passe.
Si on arrête les réformes parce qu'il y a des gens dans la rue,
je ne dis pas
parler de réformes. Hein.
Bien sûr,
il y a des gens dans la rue.
Mais faisons ces réformes. Mais ni la droite ni la gauche, ni l'extrême droite demain ou l'extrême gauche demain, s'ils sont au pouvoir, ne feront ces réformes parce qu'on ne peut pas en France aller contre les syndicats. C'est aujourd'hui trop compliqué. Donc je suis désolé. Il y a beaucoup d'idées. Agnès Verdier.
C'est le seul pays au monde où on ne pourrait pas réformer pour cette raison.
Mais non, ce n'est pas le seul pays au monde. C'est juste que il n'y a pas beaucoup de pays qui réforment. Ils ont tous commencé avec une administration moins que la nôtre.
Je pense que la résistance précisément sociale est très très forte.
Bien sûr.
Si on ne veut pas pousser aux régimes spéciaux, c'est parce qu'on se dit qu'on se prend les électriciens gaziers en pleine crise de l'énergie, que c'est juste pas
bien
gérable.
Voilà.
Et moi, c'est un exemple local.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour réduire le poids de cette administration, mais ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de le décréter.
Il y a
qu'on économise 10 milliards par an. On est tous d'accord pour le faire. Mais
je vous invite à relire un. Enfin, c'est un cas évidemment très local, donc c'est probablement pas duplicable au niveau national. Mais c'est les 15 années du maire de Plancuc à côté de Marseille. Il est arrivé dans l'une des villes les plus endettées par rapport à sa population et qui avait le plus haut niveau de prélèvement par rapport à sa population. Il s'est dit, c'est plus possible. Alors, c'est une petite ville, évidemment. Il a externalisé des quantités de trucs. Eh bien, il a totalement inversé les prélèvements obligatoires et les niveaux de dépenses.
Mais regardez, donc,
alors après, une mini.
Alain Lambert dans l'Orne avait fait ça, David Lisnard à Cannes a des résultats dans ce domaine. Enfin, c'est pas du tout inaccessible.
C'est pas
inaccessible. Après, je demande pas qu'on foute les gens dehors, Sylvain, ne caricature pas ce que je dis. Mais c'est très simple, vous avez tous les ans des gens qui partent à la retraite et vous avez des créations de postes ou pas. L'État, sans loi, sans passer devant le Parlement, peut décider qu'il va créer plus de postes ici ou là, qu'il va fermer une agence, qu'il va pas recruter dans tel membre de l'État dont l'utilité devient contestable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'on ne peut pas nous dire que ça n'est pas faisable.
Mais
parce
moi,
que tout le monde dans le monde l'a fait, et parce que c'est un besoin fondamental.
Bien sûr, mais ne pas remplacer les gens qui partent à la retraite, au bout du compte, ça enlève du pouvoir aux syndicats. Parce qu'ils ont moins de syndiqués, simplement, et qu'ils ont moins de rentrées, qu'ils ont moins de pouvoir, c'est tout. Donc il ne suffit pas de dire on ne renouvelle pas les gens qui partent à la retraite, ce serait trop simple. Encore une fois, il faut qu'on change ce pouvoir des syndicats, il faut qu'on lutte contre ce pouvoir des syndicats. Moi, je milite pour que tout le monde soit obligé d'être syndiqué, parce que si tout le monde était syndiqué, eh bien les syndicats extrémistes n'auraient plus leur place. Il faut que tout le monde soit obligé d'être syndiqué, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Et si vous et moi, on était syndiqués, eh bien, les syndicats extrémistes n'auraient plus leur place. Ils auraient plus la majorité.
Vous avez...
En tout cas, parce que la plupart des salariés ne voteraient pas pour ces
mesures. Il y a des domaines de la sphère publique où les syndicats sont plus qu'ultra-puissants. Enfin, quand vous parlez avec des profs, le management de l'éducation nationale, c'est les syndicats. Ce n'est pas le management normal. C'est pour ça que la volonté, justement, de faire un management dans l'école avec de l'autonomie, c'est une montagne à gravir. Et c'est pourtant l'un des premiers points qui caractérise les pays bien classés dans PISA. C'est l'autonomie des établissements, la liberté de recrutement, la liberté de licencier et éventuellement le salaire au mérite.
Marcel Boiteux, qui était président d'EDF, un jour répondait à quelqu'un qui lui disait: vous avez un directeur général, j'imagine qu'il jouit d'une assez large délégation, que vous lui donnez... Ah, il dit: évidemment, moi c'est EDF, c'est très simple, c'est moi le président, mais j'ai un directeur général qui fait vraiment tourner la boutique pour les soins. Alors évidemment, quand ça devient très très grave, on rend le pouvoir à ceux qui l'ont vraiment, c'est-à-dire les syndicats. Voilà. Marcel Boiteux, président d'EDF, c'est pas mon invention.
La caisse, le comité d'entreprise des électriciens gaziers a survécu à la scission EDF-GDF.
Oui, mais non. C'était quand même il y a longtemps. Mais alors, sur ce sujet-là, pour les raisons qu'on vient de dire, rien n'a changé.
Les horloges se remettent à tourner, en fait.
Mais rien n'a changé sur ce sujet-là.
C'est pas vrai, par exemple, de dire que les choses ne changent pas.
On a vraiment fini.
Quand on regarde, très bien, mais. Je vous ai écouté patiemment.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On connaît que 20 secondes.
Mais 20 secondes, enfin, je veux dire, par exemple, prenons la SNCF. La SNCF d'aujourd'hui a été réformée.
Ça a été dur, mais on y est arrivé.
Ça a été dur, mais il y a eu une réforme. Le système de retraite de la SNCF a été réformé.
Je ne parlais pas de la SNCF.
Non, mais d'accord, mais moi je parle d'une chose qui se passe. Je regarde aussi les horloges qui bougent.
Et là, c'est vrai, à la SNCF, ça bouge. Alors, des choses, donc, comme chez Orange qui continue à épurer les statuts fonctionnels
Télécom,
des PTT.
Tiens, vous n'avez pas parlé de France Télécom.
Ça
a tellement changé que ça a changé de couleur.
On n'a pas parlé non plus de la pyramide de Toutankhamon et des encombrements sur le périphérique.
On a fini.
Simplement, puisqu'on parlait d'EDF, qu'à EDF, le pouvoir des syndicats est très considérable. Alors, et que c'est vrai, c'est, on a depuis fini. La libération.
Ça change, c'est vrai. Après, il y a une énorme inertie. Chez Orange, on continue à écluser l'héritage du fonctionnariat des PTT. C'est pas totalement fini, mais bon, et à la SNCF, les gens sous statut, ils vont rester. Bah, ça aura du temps. Mais ça a bougé. On a fini.
On est d'accord.
Ah mince, je voulais parler avec vous des baisses de dépenses, puisque l'OFC, on a besoin de vous pour y arriver. Bon, c'était Philippe Manière aujourd'hui, Sylvain Rébi et Xavier Tabon. On se retrouve demain à 9h.
On revient.